Chapitre 4. L'affêtage. Le fauconnier traversa la cour d'un pas rapide. C'était l'heure qu'il préférait, celle où les premiers rayons du soleil venaient frapper les murailles. Les chiens s'impatientaient dans le chenil, excités par la faim et les senteurs de l'aube. Les oiseaux, immobiles sur leur perchoir, attendaient avec une royale indifférence que l'on disposa d'eux. L'homme allait de l'un à l'autre et leur parlait. Son œil soutenait sans ciller des regards immobiles. Son doigt, passé à travers les barreaux, effleurait une plume, agaçait une patte pour provoquer la crispation des serres. Et toujours sa voix douce, caressante, accompagnait le geste ou le devançait. Les oiseaux le connaissaient et lui témoignaient leur amitié par un imperceptible mouvement de tête, un bec entrouvert, un frémissement contenu des ailes. Au fond de la fauconnerie, un valet luttait de toutes ses forces contre le sommeil. Il avait passé une grande partie de la nuit debout, le nouveau hobereau sur le poing. Depuis 3 jours et 3 nuits, ils étaient deux à se relayer ainsi. 3 jours et 3 nuits interminables pour rendre docile le rapace encapuchonné. Le fauconnier choisit une des longes accrochées au mur, puis il s'approcha du valet. Celui-ci vit arriver la relève avec un soulagement non dissimulé. « Tout beau, viens, laisse-toi faire, » murmura le maître des oiseaux. « Tu n'auras pas de mal. » Le mal, c'est toi qui le donneras. Tout beau, tout beau. » Sa main emprisonna les ailes qui ne purent s'ouvrir. Les culottes rousses s'agitèrent comiquement, mais en vain. Le fauconnier savait saisir un hobereau. Très vite, il immobilisa les pattes et y noua la longe. Puis il prit un gant et sur son poing ainsi protégé, il posa son élève qu'il tint de court. Lui aussi resta ainsi longtemps, sans mouvement, le bras alourdi par cette charge qui semblait croître avec la fatigue. Après des moments de silence, il se remettait à parler, avec le même ton feutré. Si l'oiseau essayait de reprendre son vol, une petite pression sur la longe le retenait, une caresse refermait ses ailes. Puis le fauconnier fit quelques pas. De nouveau les ailes s'ouvrirent, mais elles se replièrent avec un début de docilité. « Tsst, tsst !» siffla le dresseur, auquel n'échappa pas ce début de victoire. Il pouvait passer maintenant à l'étape suivante. Entre les deux enceintes, il y avait des recoins abrités du vent, des vents, qui convenaient parfaitement. C'était là que se déroulait pour chaque oiseau la phase la plus importante. C'était aussi sur cette partie du rempart que s'ouvrait la fenêtre de Martin. L'enfant, assis sur le rebord de pierre, était justement en train de désespérer. Comme il avait abandonné le projet de se laisser mourir de faim, il avalait son pain avec ses larmes tout en multipliant les plus fortes résolutions. « Devant le Seigneur, je ne pleurerai pas, » se promettait-il. « Je serai aussi sec que le croûton qu'ils me font manger. » Il allait décider de ce qu'il dirait et de ce qu'il ne dirait pas, quand il vit tout à coup arriver dans la lice le maître fauconnier. Celui-ci s'arrêta sous la fenêtre. Il vérifia la longe, puis il éleva son poing. D'un geste précis, le capuchon fut enlevé. Le faucon, d'abord aveuglé, eut un mouvement d'hésitation avant d'ouvrir les ailes, prêt à l'envol. La longe se fit plus courte, les ailes tentèrent de lutter et se rendirent quand le capuchon tomba. Martin avait eu le temps de reconnaître son hobereau. L'oiseau avait, sur le dos, une couleur qui n'appartenait qu'à lui. Il le dresse à sa manière, il lui fait oublier tout ce que je lui ai appris. Il ne lui apprendra qu'une chose, tuer, 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 fulmina-t-il en donnant sur la pierre de grands coups de poing qui lui firent très mal. Le fauconnier ne sut rien de cette colère. Patiemment, il continuait la leçon. Il donnait maintenant toute la longueur de la longe. L'oiseau, sitôt la vue retrouvée, s'élançait. Son vol se terminait au bout de la courroie de cuir, en mouvements désordonnés qui ressemblaient à ceux d'un cerf-volant dans la bourrasque. Les jours passèrent, Martin ne vécut plus que pour ces brefs instants qui lui permettaient de revoir son oiseau. Et pourtant, toujours à la même heure, il avait sous les yeux un spectacle qui le révoltait. L'affêtage se poursuivait selon des lois que le fauconnier respectait scrupuleusement. Un matin, l'homme, ayant avant d'ôter le capuchon, dénoua la longe. Martin vit son ami s'élever dans les airs. Un espoir insensé s'empara de lui. « Il va voler jusqu'ici, » se dit-il. « Il saura que je suis prisonnier. Il va venir. » L'oiseau tournoya dans le ciel. Il monta très haut, jusqu'au faîte des tours, trop haut sans doute, car un sifflement le rappela au sol. L'homme montrait le pas. Le faucon, tenté, vaincu, redescendit pour se jeter sur le morceau de viande fraîche qu'il lacéra gloutonnement. Martin était loin. Il crut discerner soudain, pourtant, sur le visage du fauconnier, un sourire de triomphe. Plus de longe, une liberté étroitement surveillée, fugitive, une obéissance assurée. Et moi qui tremblais de peur qu'il ne revienne pas, je lui laissais tout le ciel, je lui faisais confiance. Il décida de ne plus assister au dressage. Le lendemain, le fauconnier se fit accompagner par des chiens qu'il lâcha pour habituer l'oiseau à leurs aboiements. Martin entendait ces aboiements. Ils montaient le long des murailles jusqu'à sa fenêtre et ils entraient dans la cellule comme un défi lancé par l'ennemi. Il fait exprès de le laisser aboyer pour que je sache qu'il est là. Il voudrait bien que j'assiste à sa victoire, ruminait l'enfant. Eh bien, je ne me montrerai pas. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. Il résista pendant 2 jours, et puis la tentation fut la plus forte. Il se hissa jusqu'à la fenêtre. Dès lors, il reprit sa place habituelle. Il se chauffait au soleil en espérant que quelqu'un passerait tout près qu'il pourrait appeler pour donner l'éveil. Mais le chemin de ronde était fréquenté seulement par de rares soldats qui contemplaient les douves d'un œil morne et ne se préoccupaient guère d'un prisonnier. Seules les corneilles apportaient un peu de vie en croissant autour du donjon. Un matin, le fauconnier avança quelque peu l'heure du dressage et devait sans doute attendre ce moment avec une grande impatience. Une fois le chaperon enlevé, il présenta à l'oiseau un simulacre de gibier fait d'un chiffon rouge et de 2 ailes de perdrix auquel était attaché un morceau de viande. Puis il lança ce leurre. Le faucon se précipita, il referma ses serres sur la proie et boula au sol où il s'acharna sur l'étoffe pour mieux lacérer la viande. Les lévriers se jetèrent en avant. Un coup de sifflet les rappela. « C'est fini, » pensa Martin. « Il est dressé. Il va maintenant tuer sur commande, et jamais on ne le trouvera assez sanguinaire. Mon beau faucon, voilà ce qu'il en a fait. » La leçon était terminée. Martin regarda partir son ami et se sentit plus seul que jamais. « Tu peux me garder en prison, méchant fauconnier, » dit-il d'une voix résolue. « Cela vaudra mieux pour toi. » Car si tu me laisses sortir, je me vengerai. Oh oui, je me vengerai, c'est sûr. Et ce faucon que tu m'as pris, tu me le rendras. » Il ne savait pas très bien comment il se vengerait, mais proférer des menaces dans le silence de sa cellule lui faisait du bien. Il réfléchit longtemps, fit des projets qui tous lui parurent ensuite irréalisables et qu'il abandonna pour bâtir d'autres châteaux en Espagne. Il n'y a qu'une solution, le vieux. Mais aussi, pourquoi fait-il la tête si longtemps ? Pas moyen d'en venir à bout. Le geôlier avait un comportement inexplicable. Un jour, il sortait une pomme de dessous son manteau crasseux. Un autre jour, il apportait une poignée de noix. Un autre jour encore, quelques nèfles. Mais jamais plus il ne disait mot. D'habitude, cela ne tracassait pas Martin. Il préférait les fruits au bavardage. À présent, il regrettait de ne pas avoir assez montré sa reconnaissance. Tout serait plus simple à cette heure. Il réfléchit encore, tourna le problème dans sa tête, le retourna, pour arriver à cette conclusion. D'abord, faire la paix avec lui. Facile à dire. Il dressa un plan, chercha des phrases. À l'heure réglementaire, le gardien entra. Il déposa la cruche, le morceau de pain, puis il plaça à côté de cet immuable repas un œuf. Un œuf donné d'un geste gauche, bourru, avec un regard en coin lancé furtivement et chargé d'une mauvaise humeur évidente. Martin oublia toutes les phrases qu'il avait préparées pour se concilier les bonnes grâces du geôlier. « Oh, merci » s'écria-t-il. Il était sincère. Dans un élan de joyeuse reconnaissance, faisant comme toujours autre chose que ce qu'il avait prémédité, il essaya d'embrasser le vieillard. Celui-ci le repoussa avec un grognement. Il murmura quelques paroles inintelligibles et sortit très vite comme s'il eût redouté de se laisser attendrir. « Quel ours !» s'exclama Martin. « Mais quel ours !» Longtemps, il tint au creux de sa main l'œuf qui était pour lui un vrai trésor. « C'est ma faute, je l'ai trompé, il n'a plus confiance en moi. » Et relevant les yeux, il vit qu'un nuage obscurcissait le ciel et que de grosses gouttes de pluie venaient s'écraser sur le rebord de la fenêtre. « J'ai vraiment choisi le moment pour calmer son humeur.